rendre grâce ensemble. Christ Jésus, merci d'avoir touché nos vies. Merci parce que quand tu es en nous, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre intelligence, dans notre corps, tu es le centre de tout. Merci ce matin de nous éclairer encore par ta parole, par ton esprit, par ta présence. Réjouis nos cœurs de ce que tu es. Amen. On a pris, Jean-Marc a choisi deux chants importants, intéressants ce matin. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est le thème que je développe depuis pas mal de semaines maintenant. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est un défi. Est-ce que parfois vous avez conscience d'être au centre du monde? Pas le centre du monde, mais au centre du monde. Je ne sais pas comment lever. Moi, je veux ma relation avec le Seigneur. Je me dis, quand le Christ est en moi, quand j'ai ces relations avec Dieu, Père, Fils et Esprit, waouh, je suis au cœur du monde. Et ma prière depuis 50 ans, c'est, voilà Seigneur, je sois toujours dans le flot de ton esprit, au cœur de ton actualité. Adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est être au cœur de l'actualité de Dieu. Et quand Dieu parle dans le monde entier et toutes les églises, j'espère ne pas être en retard. Et j'espère que nous, ici à Kevin, nous ne soyons pas en retard. Ce matin, en relation avec le Christ, nous sommes au cœur du monde. Ouais. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, elle lui a dit, mais nous, les Samaritains, il faut qu'on aille à Jérusalem, c'est pas bien pour nous. Jésus lui a dit, non, ce n'est plus à Jérusalem. Il faut adorer Dieu en esprit, et en vérité, là où tu es, bas le cœur de Dieu, le cœur du monde, il n'y a pas de plus grande actualité que d'être en relation avec le Dieu vivant et vrai. Et tous les jours, je me dis, voilà, ben, je suis comme tout le monde, nos humeurs sont passagères. Voilà, parfois ça peut être un peu moins fort, mais là aussi, régulièrement, je me dis, voilà, Seigneur, que je sois au cœur de ton actualité. Et on peut l'être quand on est dans la louange, dans l'adoration, en esprit et en vérité. On a repris ce chant. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne tout, prends ma vie, me voici, je te donne tout. C'est un défi, c'est risqué. C'est risqué de tout donner à Dieu. Mais c'est le prix pour être dans l'actualité de Dieu. Oh. Ma vie, mon être, ce que je suis, n'est pas une petite chose qui est ballottée au cœur du monde. Voilà. Seigneur, tu donnes une direction, un sens. Jean-Marc parlait du poids de la gloire de Dieu. Tu donnes un poids à ma vie. Une présence, une autorité, une vitalité, quelque chose de nouveau régulièrement. Je te donne tout. Voilà, je ne sais pas si le Seigneur va faire des deals ce matin avec les uns ou les autres. Voilà, est-ce que tu as envie, est-ce que tu es capable, est-ce que tu voudras me donner toute ta vie et prendre ce risque de mettre ta vie entre mes mains. La meilleure chose que j'ai faite depuis 50 ans, c'est de remettre ma vie entre les mains du Dieu vivant. Oh, que d'aventures. Et elle continue encore. C'est un privilège que de parler à l'Église du Dieu vivant. 49 ans, j'ai fait alliance avec Catherine. À l'époque, moi, je n'étais pas tout à fait fini. Et puis, à notre première rencontre, on a vraiment fait une alliance, aussi une alliance spirituelle. Et je dis, mon alliance avec Dieu, elle est au cœur du corps de Christ, au cœur de l'Église. Et toute ma vie, je vais être au cœur de l'action de Dieu pour ma vie, au cœur de l'Église, là où Dieu veut me placer. Ça, c'est un projet. C'est à chacun. Enseigne-moi à te louer, à t'adorer. C'est un métier, c'est un apprentissage. Ça dure toute la vie. Je n'ai pas encore fini d'apprendre. J'espère bien pouvoir continuer à apprendre des choses nouvelles. On avait vu trois pas. On en a vu deux déjà. Le premier, c'est entrer. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, Dieu siège au milieu des louanges de l'Église, Dieu siège au milieu de mes louanges, de mon adoration. Ce premier pas, entrer dans sa présence par la louange. On avait vu, on va le relire. Deuxième pas, être purifié. Accepter ce dépouillement, cette humilité. Seigneur, devant toi, je suis nu comme le jour de ma naissance. Et un jour, quand je partirai avec toi, ce ne sera pas, je me présenterai devant toi sans titre, sans compte en banque, sans Internet. Ce sera un autre mode de relation. On passe aujourd'hui beaucoup de temps avec ces petits appareils. Là. Qu'en est-il du temps que je passe avec le Seigneur ? On reprend juste deux versets. Ce texte d'Ésaïe 6, cette vocation d'Ésaïe 6, elle m'a toujours interpellé depuis toutes ces années. C'est toujours un texte intéressant. Ésaïe 6, 7, je pense qu'on peut le projeter. Hein. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Dans l'adoration, pouvoir se dépouiller de soi-même. Je vous relis le chant de tout à l'heure. Hein. « Je te donne quelque chose de moi. Je te donne une partie de moi. Je te donne... Qu'est-ce que je suis prêt à te donner, Seigneur ?» Alors, il y a les dons initiaux quand on rencontre Dieu, puis il y a tout ce qu'on doit faire après. Encore aussi aujourd'hui pour moi, 50 ans de vie chrétienne, mais c'est toujours actualité. Ce matin, je me suis levé, ou même depuis que je prépare cette. Seigneur, est-ce que j'ai encore envie de te donner ma vie, de continuer à marcher, à vivre des choses ? J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Un parcours de prière universelle. Entrer dans la présence de Dieu avec de la louange, de l'adoration. Rencontrer le salut de Dieu, la rédemption, ce dépouillement. Aussi ce revêtement de Christ. Christ est ma vie, disait Paul. Vous qui croyez en Jésus, vous avez revêtu le Christ Jésus. Avoir ces deux actions. On ne peut pas être dans l'adoration sans entendre l'appel de Dieu. La vocation de Dieu à agir avec lui, pour lui. Je vous le relis. Hein. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» La réponse dépend de nous. Mais l'appel est adressé à tous les enfants, fils et filles de Dieu. C'est universel. Même si cette expérience nous est racontée au travers du prophète Ésaïe, c'est une expérience universelle. Rencontrer le Christ en esprit et en vérité, c'est entendre cet appel. C'est être prêt à y répondre et vivre une vocation. L'apôtre Paul dira « Entrez dans la vocation céleste. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je te donne depuis le bout de mes pieds jusqu'à tous mes cheveux, même s'il n'y en a plus beaucoup, je te donne tout. Je me mets à ta disposition. Pour moi, c'est universel, pratiquement impossible d'être dans la présence réelle du Dieu vivant et vrai et de ne pas entendre cet appel, appel à témoigner. Les appels sont divers, on va le voir. J'ai choisi de vous raconter juste les premières expériences, les appels, les vocations de quelques personnages célèbres de l'Ancien Testament. Chacun d'entre eux nous raconte quelque chose de qui est le Christ. L'apôtre Paul dira, voilà, il y a quelque chose, il y a un voile qui se lève quand on lit l'Ancien Testament, il se lève quand je cherche le Christ Jésus. On peut, voilà, il y a plein de choses hein, dans l'Ancien Testament, mais ce que l'Esprit de Dieu m'enseigne depuis des années, c'est aussi que ça nous raconte quelque chose du Messie, de Christ Jésus. Et chaque être humain qui fait une rencontre avec Dieu nous raconte quelque chose de qui est le Messie. Je répondis, me voici, envoie-moi. Genèse 12, hein, on va lire comme ça quelques versets de vocation, de rencontre. Là, c'est celle d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Rencontrer Dieu en esprit, en vérité, c'est être prêt à vivre une aventure. Je l'ai vécu il y a 50 ans, ça m'a mis en marche, ça m'a amené à faire plein de choix sur des courtes périodes. Est-ce qu'on est prêt à entendre tous les appels que Dieu veut placer dans nos vies ? À un moment donné ou à un autre de notre vie. Ces appels voilà, peuvent être variés, peuvent avancer. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il s'est mis en route. Avec sa famille, il était parti d'une région extraordinaire qui s'appelle Ur en Chaldée, une des premières civilisations extrêmement brillantes, avec de l'écriture, avec des constructions, avec une société, des lois, une société prospère. Et avec toute sa famille, il était parti tout en haut de la Syrie, ils avaient fait halte, et puis dans cette halte, Dieu lui dit, allez, va-t'en, pars à l'aventure. Ton père, ta mère, ta famille, ton pays, ta patrie, voilà, viens, pars, viens avec moi vivre cette grande aventure. Et je vais te donner plein de choses. Tu vas quitter des choses, mais tu vas en recevoir d'autres. Je disais toujours pour nous, la bascule, elle est, quand Dieu nous dit, fais ci, fais ça, on a peur de ce qu'on va perdre. Il n'y a rien à perdre, il n'y a que des choses à gagner. Que des choses à gagner. Je me dis quelle aurait été ma vie si je n'avais pas fait cette rencontre avec le Christ. 50 ans et... Non, 50 ans dans quelques jours. Non, 51 ans. 51 ans juste avant Noël. Tout d'un coup, cette conscience du Dieu vivant, créateur, voilà, toi, suis-moi, brûle les bouquins que tu as, fais du ménage dans ta vie, et puis démarre la grande aventure. Tout de suite, je me suis en disant, je me suis dit, waouh. L'actualité, elle est là quand ce Dieu vivant me parle dans mon esprit. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est une découverte. Alors souvent, voilà, on se dit, mais pourquoi le monde entier, pourquoi 7 milliards d'hommes ne font pas cette découverte ? C'est le mystère de nos vies, c'est le mystère de l'appel de Dieu. On entre aussi dans un mystère. Abraham a été appelé à faire le sacrifice suprême. Là aussi, c'est un acte messianique. Ton fils, ton unique, tu vas me l'offrir. Voilà, tout le monde connaît un petit peu l'histoire d'Abraham. Wow, quel courage, il est parti. Tu veux l'arrêter juste au dernier moment. Et encore, Dieu lui a demandé quelque chose, mais il lui a redonné quelque chose. Et puis, parce que tu m'as obéi, tu deviendras le père dans la foi. Un homme qui est un modèle pour toute l'humanité, juif, chrétien, non chrétien, etc. Le fils d'Abraham, Isaac, son histoire est assez courte. Dans son histoire, ce qui est intéressant, c'est que son père voulait qu'il fasse un bon mariage. Alors il a envoyé son serviteur à Charan, tout en haut de la Syrie, une région qui est un petit peu sous pression là en ce moment. Et puis il a dit, tu vas aller chercher une épouse pour mon fils. Le serviteur est parti, il arrivait près d'un puits, il a rencontré une jeune fille, il lui dit, oh, toi tu es qui? Moi je suis Rebecca, fille de Renuel, d'un tel, c'est la famille d'Abraham. Et puis il dit, bah, mon maître m'envoie parce qu'il cherche une épouse pour son fils. Est-ce que toi tu veux bien? On lit dans Genèse chapitre 28. Chapitre 24, je vais être trop vite. Genèse chapitre 24, les versets 57 à 59. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille, consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca, lui dire, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. On verra tout à l'heure quelles sont les correspondances avec la vie du Christ Jésus. Mais là, il y a un symbole très fort, une image, on dit un type de l'appel de Christ. Cette jeune femme près d'un puits, quelqu'un vient la voir et lui dit, voilà, mon maître cherche une épouse pour son fils. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On le verra tout à l'heure en détail. Jacob, là on lit Genèse 28, les versets 11 à 12. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait le ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Waouh ! Quelle expérience extraordinaire ! Là aussi, chaque être humain, homme, femme, a un appel qui est différent. Quand vous êtes dans la louange et dans l'adoration, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une échelle, un rayon de lumière, quelque chose de particulier? Comment les expériences de tous ces personnages de l'Ancien Testament peuvent me parler, peuvent me toucher, peuvent me dire quelque chose de la relation avec Christ? Quand je suis dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, en relation avec le Christ Jésus, wow, il y a quelque chose qui monte et qui descend, qui me relie au ciel. Et il y a un dialogue qui se fait. C'est comme plein de lignes téléphoniques ou de lignes internet. Il y a une relation, il y a quelque chose qui se passe. Ça va avoir du sens pour Jacob de partir et il aura cette grande rencontre avec Dieu en face à face. Et quelque chose de sa vie va être changé. C'est pas toujours dans la rencontre des êtres humains que l'on rencontre le cœur de la personne. Je partageais hier avec ma fille, avec Laetitia, puis je disais, mon père est décédé, j'avais 14 ans. J'ai l'impression de l'avoir jamais rencontré en tant qu'être humain. C'est un constat un petit peu terrible, mais avant 8 ans, je posais plein de questions, ça l'énervait. Après, j'étais en pension 4 ans, donc on se voyait moins. Et puis, 2 ans après, il est décédé. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Je l'ai connu, mais je n'ai pas connu qui il était dans sa vérité d'être humain. Ça m'a créé pas mal de désordre dans ma vie qu'il a fallu combler différemment. Jean-Marc parlait du poids de la gloire de Dieu. Se rencontrer en tant qu'être humain, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, il y a quelque chose. Notre cœur ne brûle-t-il pas ? Quand on se rencontre cœur à cœur, comme ça, parfois, moi, je sens quand on témoigne de Christ, quand on, tout d'un coup, avec quelqu'un, il y a quelque chose de spirituel qui se passe, on se dit, waouh ! Là, il y a un flux, il y a quelque chose de riche qui se transmet, qui passe de l'un à l'autre. Joseph, il était aimé de son père. Et parmi ses 12 frères, son père lui a fait une tunique. C'était le petit chouchou. Il avait 11 contre lui. Pas forcément bien dans les familles d'en choisir un. Et puis pour les autres, ça devait être assez dur. Joseph était aimé de son père et il lui fit une tunique de toutes sortes de couleurs. Wow. Et il a deux visions. Une vision de gerbe. Il est au milieu, puis toutes les autres gerbes se prosternent devant lui. Et il a une autre vision où il voit le soleil, la lune, 11 étoiles, et tout le monde se prosterne devant lui. Puis je vais dire, cet imbécile, enfin, il est allé raconter ça à tout le monde. Oh, j'ai eu des visions, super. Et puis les autres se sont dit, mais il se prend pour qui, le petit frère là ? Je suppose que vous avez lu l'histoire, vous connaissez la suite. Hein. Ses frères vont la tremper, vont le jeter dans une cuve, vont le vendre comme esclave en Égypte. Il va être chez un des proches du pharaon. La femme de son maître va essayer de l'attraper par son vêtement, puis il va arriver à s'enfuir. Il va être mis en prison, il va être oublié, il va... Tout plein d'aventures. Et à 30 ans, le voilà rendu chez Pharaon. Premier ministre. Le pharaon va avoir une vision, cette année d'abondance de blé, cette année où de famine, il n'y aura rien. Puis Joseph lui dit, il faut faire ci, ça et ça. Puis pharaon lui dit, comme toi tu sais ce qu'il faut faire et que tu comprends les choses, tu as l'esprit des dieux en toi, eh bien, je te nomme premier ministre, c'est toi qui as toute l'autorité après moi. C'est 11 frères. On dit aujourd'hui qu'ils crèvent la dalle, c'est la famine. Au Canaan, il n'y a rien à manger. Ils se disent, on va tous aller en Égypte. Ils vont en Égypte et Joseph reconnaît ses frères. Il leur pose plein de questions. Et puis après, bien, ses frères reviennent pour s'installer. Genèse 45. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur du pays d'Égypte. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Voilà, venez vous installer. Joseph s'est dit, mes frères n'ont pas été sympas. Puis tout d'un coup, dans l'actualité de Dieu, il a cette révélation, mais ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de tous ses frères et sœurs que que Dieu t'a choisi. Chacune de ces histoires, chacun de ces appels, chacune de ces vocations nous disent quelque chose du Christ Jésus, du Messie. C'est son histoire qui est racontée par petits morceaux. Si vous avez le temps, chez vous, vous relirez les appels de Moïse, de Josué, de Samuel, de David, d'Ésaïe, etc. On ne peut pas tous les reprendre. Mais chacun d'eux, à un moment donné, doit faire des choix. Abraham se leva et partit, comme la parole le lui avait dit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui se lèvera pour nous et qui enverrai-je? Je répondis, me voici, envoie-moi. J'aimerais juste quand même terminer par une figure féminine dans Luc 1. Ça concerne l'histoire de Noël. Luc chapitre 1, les versets 13 à 17. Luc chapitre 1, les versets 30 à 38. Je vais trop vite. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que nous sommes prêt à dire chaque jour de notre vie, je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un défi, c'est une question, une interpellation, un appel. On lit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici. » Je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens, pour faire ta volonté. Quand Dieu a créé l'homme, qui a eu la désobéissance, dans le ciel, Dieu a dit, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et le Christ, son fils, a dit, « Voici, je viens. » Tout en sachant ce qui allait lui arriver. Naître de la Vierge Marie en Israël, 30 ans comme charpentier, faire des meubles, construire une maison. 3 ans de ministère, tout en sachant que cela se terminera sur la croix. L'ange dit à Marie, le petit enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Elle n'est pas partie dans le débat logique en disant, ouais, mais en Israël, dans la loi, voilà. Elle a accepté cette révélation quand même qui est hors de sens. Donner la naissance au Christ Jésus. Quand Christ vient naître en nous, quand il nous touche par sa parole, qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Je répondis, voici, je viens. Et le Christ, et elle est, c'est le récit aussi d'un psaume. J'aimerais juste terminer avec ce texte de Philippiens, puis après je vous laisse chacun répondre à cet appel, à cette vocation. Voilà. Chaque réponse que nous donnons à Dieu dans notre vie, on vit quelque chose aussi de messianique. Quelque chose de l'appel du Dieu vivant qui était sur son Fils, le Christ Jésus. Et dans toutes nos expériences, il y a aussi quelque chose de messianique, de prophétique. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à arracher. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Fils a dû accepter d'être arraché à sa position d'autorité à la droite de Dieu. En prenant un corps, il a renoncé, il s'est dépouillé de quelque chose pour le retrouver plus tard en majesté. Il s'est dépouillé lui-même. Quand Dieu a dit dans le ciel, qui enverrai-je, qui marchera pour nous ? Le Fils a dit, moi je viens. Je suis prêt à descendre. Je suis prêt à aller vers les âmes comme un serviteur. Pour moi, c'est le fondement de tous les appels. Qu'on soit apôtre, prophète, pasteur, docteur, enseignant, ancien, ancienne, diacre, diaconesse, tous les ministères, qu'on soit simplement enfant, fils ou fille de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant. Je vous laisserai lire la suite. Hein. Obéissant jusqu'à... Jésus est allé jusqu'à la croix. Pour chacun d'entre nous, me voici. Et dans son obéissance, il a été jusqu'au bout. Pour que ma vie soit toujours au cœur de l'actualité de Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il est venu comme un vrai homme. Je vous laisse découvrir, voilà, peut-être cette autre manière de lire l'Ancien Testament. J'ai récupéré toute la bibliothèque de ma mère il y a très longtemps. Elle avait un petit livre qui s'appelle « La splendeur de Christ dans l'Ancien Testament ». C'est toutes les préfigurations, on appelle ça les images, les types. Comment est-ce que dans tous les personnages et toutes les situations et circonstances de l'Ancien Testament, on peut reconnaître Christ ? Toutes ces choses ont nourri ma foi, permettent aussi de le partager. Père Céleste, merci de nous enseigner à t'adorer en esprit, en vérité. Merci de nous accompagner sur le chemin de cette découverte. Merci de l'appel, des appels de là ou des vocations que tu adresses à nos vies. Merci de nous faire grandir dans la compréhension de cette vocation, que ce soit dans la prière, dans le témoignage, dans, voilà, dans toutes ces circonstances, toutes ces choses de la vie que tu nous donnes. Merci de nous aider d'être au cœur de ta réalité, au cœur de ta vérité. Ensemble, nous bénissons ton nom. Amen.